Ce jour est dédié à l'élévation de l'âme de Rachel Beracha, Bat Maïcha, Zichrona Livracha. La question de Elia Bekassis qui nous vient de Casa.
Doit-on vraiment vouloir à Hitler dans la mesure où il devait avoir quelqu'un pour faire la mission de la Shoah? Et ça pouvait bien être quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'il est venu sur Terre pour vraiment faire cette mission? Donc, en quelque sorte, on ne doit pas lui en vouloir. Ou est-ce qu'il a fait d'une autre façon, parce qu'il n'était pas destiné à la faire? Dans ce cas, on doit lui en vouloir. Et en général, doit-on en vouloir à certaines personnes qui intercèdent dans notre vie pour faire du mal? Peut-être que c'est des éléments déclencheurs pour nous réveiller. Dans ce cas-là, on ne doit pas leur en vouloir.
Ok, c'est une bonne question. Comment ça se passe quand quelqu'un me fait du mal? Quelle est ma réaction que je dois avoir par rapport à la Torah? Et évidemment, quand on parle de Hitler, c'est la même question, mais avec tout le bagage affectif et terrible que ça accompagne. Donc, c'est toujours quand on parle de la Shoah, c'est toujours on marche sur des œufs, d'accord? C'est toujours extrêmement délicat. On va d'abord parler en théorie. Après, on parlera plus particulier de la Shoah Blin Eder. En théorie, Am Israël fonctionne d'après une phrase que tout le monde connaît, profession de foi juive, Shema Israël, écoute, c'est-à-dire accepte Israël, personne d'Israël, Hachem, ça veut dire l'éternel, Elokeinu nous est notre Dieu. Nous jouissons, nous, Am Israël, d'une providence spéciale de la part de ce Dieu. Hachem, ce même Dieu, l'éternel, Echad, il est un. Ça veut dire quoi, un? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe sans lui. Il n'y a rien hors de lui. Tout, absolument tout, dans l'absolu le plus absolu qu'il puisse y avoir, fait partie de l'unité de Dieu, donc est régi par Dieu. Et ça ne peut pas qu'il y ait une petite sauterelle qui bouge son petit doigt comme ça pour se gratter, sans que quelque part, ça vienne de Dieu aussi. À plus forte raison, quelqu'un qui vient, qui me sent qu'une gifle, et à plus forte raison, à la puissance quelques milliards, Hitler revient, et comme ça, en quelques années, Simon de Jus dans les conditions atroces que nous connaissons. Il est impossible, en tout cas c'est contraire, tout à fait contraire à la Torah, d'accepter une chose pareille. C'est une notion tout à fait contraire à la Torah de dire qu'il se peut que des gens fassent des choses sans que Dieu l'ait voulu. Mais on doit expliquer cela de façon beaucoup plus profonde. Parce que si je vais après cette sentence, donc tout ce que je fais, c'est Dieu qui l'a voulu, ben, mangeons un peu de porc, allons en boîte, éclatons-nous, après c'est Maktoub, c'est Dieu qui a voulu, et puis, et en plus Dieu est injuste parce qu'il me fait faire le péché, puis après en plus il paraît qu'il me punit là-dessus, donc c'est un truc tordu. Alors c'est un peu plus compliqué, c'est pas si compliqué, on va expliquer cela. Bon, parlons directement de la Shoah. Je ne vais pas rentrer dans les questions. Pourquoi Dieu veut-il amener une Shoah? Peut-être plus que j'en parlais, peut-être plus que l'occasion d'en parler un peu plus. C'est une question très difficile, parce que quand on parle à des gens qui sont loin de la Torah, la première question c'est est-ce que Dieu existe, que la Torah est vraie? On leur prouve, preuve irréfutable, oui. Voilà. Deuxième question, mais c'est classique, quoi. Alors pourquoi la Shoah? Deuxième question, numéro 2, elle vient toujours. Et par extension, pourquoi la souffrance? Pourquoi on a mal aux dents quand on, à l'âge de 5 ans, quand on change les dents de lait, on soit nos dents fixes? Pourquoi est-ce qu'on doit passer un bac et c'est assez casse-pied? Pourquoi est-ce qu'on doit trouver un chidour et c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'il y a des divorces? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? C'est la même question, en moins puissant que la Shoah, mais pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Bon. Le mal, en général, je ne vais pas en parler maintenant, parlons de la Shoah plus spécifiquement. Il n'y a pas une raison qui a provoqué la Shoah. Il y a certainement au minimum des centaines de raisons, voire peut-être des milliers de raisons qui ont provoqué la Shoah. dont une grande majorité nous échappe. Et c'est clair. Parce qu'il faut comprendre, avec beaucoup d'humilité, que nous sommes très petits. Et nous ne connaissons pas tous les tenants aboutissants. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ce monde? Qu'est-ce qu'il y aura après ce monde? Qu'est-ce qu'il y a eu avant notre vie, devenir notre vie terrestre? Il y a une vie avant. Il y a des âmes avant. Nous existons à l'état d'âme. Qu'est-ce qu'il y a après? Le passage sur Terre, il est extrêmement petit. Nous parlons, après la vie, qu'il y a une vie éternelle. Éternelle. Quelle est la valeur d'une vie même de 120 ans? Quelqu'un qui a vécu très, 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 très vieux, 120 ans. 1000 ans sur Terre. Quelle est la valeur de 1000 par rapport à l'infini? Rien. Alors comment veux-tu, toi, étant dans les critères de définition du monde fini, pouvoir amener un jugement alors que les tenants aboutissants sont du domaine de l'infini? C'est invraisemblable. Si Dieu, et on peut le prouver, on l'a fait, existe, et la Torah est d'origine divine, il est inhérent à la notion de divinité, la notion de perfection et de bonté. Bonté infinie. Infinie. Donc nous ne comprenons pas, nous sommes persuadés que la Shoah, en fin de compte, les raisons qui l'ont provoqué, la Shoah en soi, c'est certain que c'est mal. Mais les raisons qui ont provoqué cela, à la base, font partie d'un bien infini. Infini. Ces raisons m'échappent. Je peux donner quelques cadres de référence, de sortes de raisons qu'il peut y avoir. C'est certainement pas tout. Et il faut, la bonne réponse, c'est de dire, voilà, ça nous échappe. Et on peut donner quelques petites raisons par-ci, par-là, mais certainement pas réduire la Shoah à dire, voilà, c'est ça qui a amené, c'est parce que ça. Qui es-tu pour dire parce que? Je suis secrétaire du bon Dieu. Je sais pourquoi Dieu peut amener une Shoah. De quel droit c'est qu'on peut parler comme ça? On ne sait pas. Alors, quelqu'un me dit, alors, quoi alors? Alors, c'est la réponse la plus authentique qu'il puisse y avoir. Je ne suis pas Dieu. Et quelqu'un qui veut une réponse parce que, eh ben, désolé mon vieux, t'as un problème. Ça se soigne psychiatriquement, tu te prends pour Dieu. Il y a des gens qui se soignent pour Dieu, d'accord. Il y a 2000 ans, bon. D'accord, ça se soigne. Ça se soigne. Nous devons être moins orgueilleux, moins exigés de la part de Dieu des comptes. Et si je ne comprends pas, eh ben, non, non. Si Dieu existe, il te donne la vie, tu lui dois tout, et tu as ses raisons. J'ai pensé encore hier. Pourquoi je me suis dit, je vais en parler un peu plus aujourd'hui, parce que ça m'a travaillé comme ça. Je vais dire une chose qui est extrêmement osée. Je pense, ça n'engage que moi très petit qui suis rien du tout, je pense. Encore une fois, c'est très dur de dire cela, parce que là, nous tous pensons, souffrons, nous souvenons avec douleur de la Shoah. Nous tous. Je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait plus de juifs aujourd'hui. Plus de juifs. Pourquoi? Avant la Shoah, le peuple juif était sur une dégringolade spirituelle énorme. Des millions, sans aucune exagération, des millions de juifs quittaient la Torah. Des millions. On ne connaît pas un cas de quelqu'un qui a fait Tchouva avant la Shoah. Pas un. S'il n'y avait pas eu de Shoah, nous sommes aujourd'hui presque 160 ans après le début du mouvement d'émancipation qui a enclenché le fait que les millions de juifs quittent la Torah. Est-ce qu'il y aura encore un crétin ici sur Terre, juif, qui serait pratiquant? Ça fait 160 ans qu'on a arrêté de faire ces coutumes bizarroïdes et d'attendre il y a 2000 ans. Ça va, réveille-toi. Il n'y a aucune raison qu'on soit juif. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a créé un État en Israël. À l'époque, quand l'État a été créé, il y avait 200 familles religieuses, c'est tout, pour quelques centaines de milliers d'habitants. Et en 20 ans, la majorité des enfants de ces familles religieuses sont devenus non religieux. Si ce n'était il y a 30 ans, tout à coup, cette révolution extraordinaire que le monde juif non religieux a fait tchouva, beaucoup de gens font tchouva, alors Amisraël était en dégringolade. Cet État a été créé, c'était un État athée, sur des bases socialistes. Dieu n'existe pas, point barre, c'est tout. Ben Gurion, il y a une discussion, est-ce qu'on met le nom de Dieu dans la charte d'indépendance? Il a dit non. On mettra Tsour Israël, le rocher d'Israël. Les religieux diront que c'est Dieu, moi je dis que c'est Tsahal. Dieu, je ne connais pas. Et ainsi fonctionne encore aujourd'hui la direction de l'État. Ce sont des gens laïcs qui, pour eux, ils respectent le fait qu'il y ait des gens qui croient à ces bobards, mais ok, il ne faut pas pousser. Donc, du point de vue objectif, il semblerait, si on fait une étude sociologique, il est clair qu'il n'y avait aucune raison que le peuple juif continue à être religieux. Parce que on a des pulsions. Christine, Fatima ici dans la région, Ingrid, Tatiana, enfin ce que tu veux. Pourquoi pas? Le porc, c'est une bonne odeur avec le fumet comme ça, il paraît. Les crustacés, les huîtres, juste pour goûter. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au nom de quoi? On dit la Torah dit non. Mais quoi la Torah? Il est où ce Dieu? On fait ce qu'on veut, regarde, mon grand-père, mon grand-père, mes grands-pères, ils ont fait ce qu'ils voulaient, tout va très bien. La vie va très bien. Tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Qui aurait été le crétin? Mais le type qui reste religieux, excusez-moi, mais c'est un crétin fini, c'est un arriéré. Or, Am Israël est le véhicule de Dieu. Dans la mesure où il est véhicule de Dieu, il est destiné à être véhicule de Dieu. C'est-à-dire, par la pratique de la Torah. Et il le restera. Maintenant, voici que Dieu voit que Am Israël, en grande majorité, quitte la Torah. Eh bien, il dit, ok, moi, mon peuple restera. Stop. Pourquoi frapper? Pourquoi les camps? Je ne sais pas. Mais il est clair que les millions de Juifs qui ont souffert durant la Shoah, qui sont là-haut, prient aujourd'hui pour nous, pour les enfants et petits-enfants, voilà, j'ai un petit-fils là qui fasse tchouva. Parce qu'il est complètement anormal de voir aujourd'hui combien des centaines de milliers de Juifs font tchouva, c'est complètement anormal. Et tu réponds à la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, s'il fait l'introspection, il dit à la fin, il dit, personne ne pourrait. Il est arrivé que, tata titre, mais pourquoi? Pourquoi tu t'es réveillé à ce moment-là? Quelqu'un t'a parlé, ça t'a réveillé. Et pourquoi l'autre, on l'a parlé, il ne s'est pas réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, tic! C'est quoi? Grâce à quoi? Grâce à quoi? Chaque personne honnête dira, grâce à Dieu. Alors Dieu, pourquoi il fait ça? Il n'y a pas gratuit. Il n'y a pas gratuit. Dieu, il est juste. Juste, ça veut dire, c'est donnant-donnant. On a un mérite. 6 millions de Juifs comme ça, autre raison. Comme je dis, Dieu, c'est donnant-donnant. Il est impossible. La Gemara dans Megillah dit, Yagata Matsatata Amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, ne crois pas que tu as trouvé. Quelqu'un pédale. Il est dans la montée. C'est dur à monter? C'est dur à pédaler? C'est dur. Si quelqu'un te dit, moi, je fais rien du tout, je pédale pas, et le vélo, il avance. Qu'est-ce que tu dis? Il est en montée? Ben, il est en descente. De même que c'est valable au niveau physique, c'est valable aussi au niveau métaphysique. Il est impossible d'accéder à un niveau de réelle qualité spirituelle sans qu'il y ait une résistance. Il y a le mal dans le monde et on doit, pour arriver au bien, il faut se battre. Il est impossible que tu arrives à un degré, quel qu'il soit, sans qu'il y ait une situation de difficulté, de crise. Et plus le cadeau qu'on va te donner, il est grand, plus la crise, elle est difficile. Am Israël a eu les plus grands cadeaux spirituels de son histoire après des situations de crise. La Mishnah, toute la loi orale, a été écrite le siècle après que le temple était détruit. Les grands Rishonim, Baalei HaTosafot, bien après l'époque des croisades, les grands Kabbalah, toute la Kabbalah qui est née avec Rabbeinu, qui s'est propagée, qui a pris une ampleur extraordinaire. Rabbeinu Ari, Rabbi Chaim Vital, les Kabbalistes de Tzfat, c'était après Yerush Sfarad, l'expulsion d'Espagne. Le mouvement chassidique, c'était après Chmelnitsky. Chaque fois qu'il devait avoir dans le monde une ouverture, une apparition d'une lumière très grande, ça passe avec cette situation de crise, avec de la peine. Alors, quand nous, on regarde maintenant l'histoire, on voit une Shoah. Et on voit, juste après, création d'un État en Israël, retour physique des Juifs en terre d'Israël, c'est extraordinaire, ça fait quand même 2000 ans qu'on le rêve. C'est une prophétie, mais c'était un rêve. Tous les matins, dans les Korbanot, on dit cela. Que Dieu te ramènera en terre d'Israël à la fin des temps. On le dit, c'est mis dans la prière, parce que les gens n'y croyaient pas, on leur faisait tous les matins, voilà, sache ça, un beau jour ça arrivera, ben ça y est, c'est passé, aujourd'hui on y est. retour métaphysique, spirituel à la Torah. Comme je dis, c'est le plus grand miracle de tous les temps. Des centaines de milliers de juifs dans le monde entier, en Russie, en Amérique, en Argentine, en France même, partout, Baruch HaShem, Maroc, reviennent à la Torah. Alors que de point de vue rationnel, c'est aberrant, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a de si... Regardez vous-même, vous venez maintenant, voilà, vous débarquez ici, on prend un texte écrit il y a 2000 ans, en araméen, qui parle d'un sujet, mais un truc de deux personnes qui ont attrapé un talit, et chacun attrape exactement la moitié, et on se fait quatre pages là-dessus, quatre pages, sont faites, si vous les faites en 2 mois, vous êtes fortiche, d'accord, il y en a qui restent des années là-dessus, sur un cas qui, vraisemblablement, jamais n'arrivera. Le type dit, écoutez, où suis-je arrivé? Où est le psychiatre responsable de cet établissement? C'est un truc de maboule. T'es pas une fille. Bizarre. Bizarre. Et puis 2 heures par jour, tu te balances. Tu mets des petites boîtes. Un type rationnel se dit... normal. Profite de la vie. Ça tient pas la route. Donc on vit un miracle. Il est évident que, après tous les signes, nous sommes très proches de l'époque messianique. Et il est impossible, c'est marqué dans tous les textes depuis toujours, avant que le Messie vienne. Donc, ma chère, il y aura des souffrances terribles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas le pourquoi profond. On parle d'un accouchement. Pourquoi est-ce que les femmes accouchent-elles avec douleur? Est-ce qu'on a plus sympa qu'elles fassent? Clic, et voilà, le gosse, il est sorti. Eh ben non. Comme ça est la nature. Les textes nous ont dit, avant que ma chère viendra, il y aura des souffrances terribles. Un point tel que des rabbins du Talmud disent, il y en a qui s'appelle Oula d'ailleurs. Oula, il crie, d'accord? Qu'il vienne, ma chère, je ne sois pas là-bas pour le recevoir. Ça va être terrible ce qui va précéder. Parce que la lumière est tellement grande, la résistance de l'obscurité avant que la lumière vienne, elle fera tout pour pas que ça apparaisse. Elle va faire mal. Elle va faire mal. Donc il est certain que la Shoah s'inscrit là-dedans. Dans quelle mesure? Qui? Quoi? Encore une fois, je parle de façon très générale, je ne peux pas. C'est bien ce que j'ai dit au début. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont provoqué la Shoah. Maintenant. Quand Machiav revient, quand le monde, l'histoire arrive à son achèvement, il faut que chaque âme ait fait le job qu'elle devait faire. Une âme qui, pendant 20 réincarnations, a fait le crétin. Alors des fois, je parle de choses très profondes en très court, mais j'ai des cours qui en parlent, d'accord? Le pourquoi de la souffrance et la réincarnation. Il faut voir ces cours-là. Là-bas, j'explique que la souffrance, elle a une capacité... de nous faire faire ce qu'on n'a pas fait, malgré nous. Tout le job qu'on aurait dû faire, c'est comme si on l'a fait. La souffrance. Alors la Shoah. Tous les centaines de milliers d'âmes qui devaient encore parfaire quelque chose. Alors pour eux, c'est mal ou une aubaine? Nous on dit c'est terrible. Mais du point de vue de l'infini, quand je peux être dans l'infini un degré supplémentaire, une partie de l'infini, combien ça vaut? Combien ça vaut une partie d'infini? Infini. Donc un degré supplémentaire dans l'infini, c'est infini. On te dit, écoute, tu vas gagner l'infini. Vous comprenez bien ce que je veux dire, l'infini. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Pour ça, il faut souffrir un peu. Ah, pourquoi la souffrance? Ok, je ne peux pas en parler maintenant, j'en parle dans les cours. Regardez les cours sur la souffrance, j'explique pourquoi la souffrance, c'est une activation de l'être. L'effort que j'aurais dû faire, je le fais, malgré moi. C'est marqué des choses très profondes, je ne connais pas le sens. C'est marqué que... les baisers d'amour de Dieu se traduisent souvent dans le monde par la souffrance. Donc ça c'était pour parler un tout petit peu, entre guillemets, de ce que nous pouvons, je préfère dire, ne pas dire des raisons de la Shoah. Maintenant, quelqu'un comme Hitler. Dieu décide, pour les raisons qui nous échappent, d'amener une Shoah. Donc il faut maintenant un réalisateur de cela. Comment ça se passe? Dieu, il a une case vide. Il faut quelqu'un maintenant qui remplisse le rôle. Tu es Simon de Juif. Il va chercher quelqu'un qui a des prédispositions. Il va mettre, on va appeler par exemple M. Dupont. Il le met. Dupont est un grand antisémite. Martin Dupont. Et il a l'occasion de faire un putsch militaire, tout ça, de faire un programme. Il se dit, allez, tuer des juifs, c'est vrai que j'aimerais bien, mais quand même, je ne vais pas... Ça ne sera qu'une pulsion en pensée, je ne vais pas quand même agir dans ce sens. Donc, dans son libre choix. Lui, il a un job à faire, Martin Dupont, dans ce monde. On lui donne une pulsion antisémite, et il devra la réfréner pour le bien. C'est son libre arbitre. C'est son job sur Terre, entre autres dans les épreuves qu'il aura de libre arbitre, il aura le job. Est-ce que je vais, oui ou non, laisser ma pulsion antisémite se réaliser? Ou je vais la réfréner parce que ce n'est pas de l'ordre du bien que d'aller tuer des gens. Au nom de n'importe quelle idée que ce soit. Bon, Martin Dupont n'est pas donc... On le met dans cette case où il peut le faire et il décide de ne pas le faire. Bon, on prend un autre, Adolphe. Adolphe, il est antisémite. Et lui, il a aussi une responsabilité. Et décide dans sa propre responsabilité, dans son libre choix total, de tuer 6 millions de juifs. Dans ces conditions. Il est coupable. C'est clair. Mais, dans son libre choix, il a décidé de faire une chose qui, quelque part, rend service à Dieu. Il y avait la case. Il fallait que quelqu'un tue 6 millions de juifs. On met la personne ici. Elle a libre choix. Martin Dupont, il veut pas. Ok, je mets un autre. Mussolini, il veut pas. Je mets un autre. La reine d'Angleterre, il veut pas. Ok, Adolf Hitler, lui, il veut. Ok. Eh ben, lui, maintenant, responsable. Jugeable et condamnable. Et coupable. Mais néanmoins, le but que Dieu avait de tuer 6 millions de juifs s'est réalisé. Est-ce qu'on doit lui en vouloir? Pardon, il faut bien quelqu'un pour le faire, c'est ta question. Oui et non. Elle expliquait comment ça se passe exactement. Le titre, et je l'expliquais mieux, le titre c'est non au niveau de l'estomac, oui au niveau de la raison. Et je l'expliquais pourquoi. Le roi David est appelé la quatrième roue du chariot divin. Ça veut dire que Dieu, quelque part, sa présence, se pose dans ce monde grâce à quatre piliers. Les trois premiers sont Abraham, Israël, Jacob, ça branle encore. Il faut un quatrième, le roi David. C'est lui qui stabilise tout. Si ce n'est pas Chazal qui avait dit ça, comment pour oser dire une chose pareille? Des êtres humains stabilisent la présence de Dieu sur Terre, c'est un truc de... C'est marqué. C'est-à-dire que c'est un homme d'un calibre phénoménal. C'est le roi David, c'est Mashiach, d'accord? C'est la même âme. Provient de la même âme. Être un être humain qui peut stabiliser la présence de Dieu, c'est un homme d'une carrure spirituelle extraordinaire. Alors, par quel mérite il a eu ça? Ou qu'est-ce qu'on aurait tendance à dire? Bah écoute, le roi David, il a écrit Tehilim, t'as lu un peu Tehilim? Est-ce qu'il y a un texte d'épanchement du cœur plus grand que ça? C'est tous les jours, c'est marqué qu'il dormait comme... Le sommeil du cheval, c'est moins de 57 secondes, comme il somnolait jusqu'à minuit, et dès minuit, étudie la Torah. Toutes les nuits. Super kadosh. Il a fait une tshuva, il a fait un soi-disant péché. D'accord. Il n'a pas fait l'adultère. On m'a dit que tout celui qui dit que David a fait l'adultère s'est trompé, parce que cette femme, Bathsheba, elle était divorcée. Mais non, moi, c'était pas comme il aurait dû faire. C'est pas le mieux, le top. Pour lui, pour un homme, cette carrière, ce n'était pas le top. Mais il fait une tshuva extraordinaire. On dit, ah ben voilà, c'est un bas tshuva, il a fait les Tehillim, tu la Torah comme un... Eh bien non, messieurs. À quelle occasion le roi David est devenu la quatrième roue du chariot divin, dit Chazal, son fils Avshalom fait un putsch militaire. Déjà, être putché, ce n'est pas agréable. Et putché par son fils, c'est terrible. Ton propre fils. Le roi David fuit de son palais avec ses femmes, ses enfants. Il monte le mont des Oliviers. Il arrive en haut avec sa famille, ses femmes. Vient, pas un voyou, le chef du Sanhedrin, Shimi ben Gera. Pas Kohen Gadol. Mais pas un Sanhédrin comme aujourd'hui ou comme il y a 500 ans ou 1000 ans qui était déjà énorme. Le Sanhédrin de l'époque du roi David, donc c'est pas un petit bonhomme. Et qui, en public, insulte, maudit le roi David. Le roi David dira, Vakilelani, il m'a insulté, Kera Nimretzet, d'une insulte Nimretzet, Nimretzet puissante. Mais Khazar on dit, c'est quoi Nimretzet? C'est 5 lettres. Nun, Mem, Resh, Tzadik, Taf. Nun, Noef, adultère. Mem, Mored, tu t'es révolté contre le roi Shaoul. Nimretzet, Resh, Rotzeach, assassin. Tzadik, Tzorer, persécuteur. Taf, Toeva. Horreur, dégoûtant. Et il lance des pierres, il lance du sable, de la terre sur le roi David. C'est le roi. Ensuite, en face de ses enfants, en face de ses femmes, le général de David, Yoav ben Tsruya, est à côté de lui. Il lui dit, laisse-moi, je tue ce chien. Sors son épée. Il a le droit. Il a le droit. D'après la loi, un roi d'ordre divin comme était le roi David, a tout fait une chose pareille, passible de mort, sur place, clac, on le coupe la tête. David, il a une guerre intérieure terrible. Hein? Essayez-vous. Pas en étant le roi David. Quelqu'un vient maintenant, là, en public, il te traite de tous les noms. T'as rien fait. Devant ta femme, tes enfants te regardent. Et tu peux en une seconde l'envoyer balader. Reste impassible. C'est une guerre terrible. Il dit à son général Yoav, laisse. Dieu lui a dit d'insulter. Chazal on dit à ce moment, il est devenu la quatrième roue du chariot divin. Je ne peux pas arriver à un niveau sans une guerre intérieure. Ça, c'est une guerre. Être roi d'Israël et se faire insulter, jeter comme le plus petit des nuls, par le plus grand. Et tu as le pouvoir de l'envoyer balader et tu te retiens. C'est le même principe qui était actionné ici. Le roi David a compris. Ce type-là, comment il vient m'insulter? Dieu est un, c'est lui qui fait tout. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais pas lui en vouloir. Alors lui, il est innocent, il est coupable. Et le roi David ordonnera son fils Shlomo de venger. Mais pas parce qu'il lui en veut, pour que Shimi ben, par amour de Shimi ben Gera, qui n'arrive pas au Lamaba avec cette tâche. Parce que Shimi ben Gera, par rapport à Dieu, est extrêmement coupable. Comment tu insultes comme ça le roi de Dieu, le roi d'ordre divin? Donc quelqu'un qui me fait du mal... Moi, je ne veux pas lui en vouloir du tout, parce qu'il est envoyé par Dieu. C'est un envoyé de Dieu pour mon bien. Vraiment pour mon bien. Vraiment pour mon bien. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est marqué que Amavir al-Midotav, celui qui se retient dans ce genre de cas, Maverim, alors on retient tous ses péchés. Chacun de nous, on a une collection de péchés, quelques wagons. Très dur à enlever. Très dur à enlever. Tu te retiens, c'est marqué, on efface tous tes péchés. Mais si on avait la chance d'avoir ça, mais on a de quoi danser jour et nuit. Danser jour et nuit. On a des plus grands rabbins de la génération, le Rav Chaim Kanievski. On est plus grand de la génération. Au niveau des brachot, c'est peut-être le top. De la force de bénédiction. Un homme qui n'avait pas d'enfant depuis une vingtaine d'années est allé le voir. Prends une bracha. Il lui a dit, je ne peux rien faire, c'est bloqué. Alors quoi? Il dit, le seul qui veut débloquer, il faut que quelqu'un qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. C'est marqué, c'est un verset de Yov, Tole eret al blima. Dieu suspend la terre sur rien. Blima, blima, sur rien. Chazal dit, blima, c'est frein. Dieu suspend la terre sur la personne qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient pour ces gens-là. Il te faut quelqu'un comme ça. Le type sort de chez Rabbi Chaim, où est-ce que je trouvais cet oiseau rare? Bon, il va à une bar mitzvah. Et Dieu, il semblerait, aimait beaucoup cette personne-là. Et à sa table, les gens sont assis comme ça. Tout coup, vient un type, se met à crier, à insulter, à maudire le voisin. On va dire le type qui n'avait pas d'enfant, en plein Moshe. Et Yaakov, à côté de lui, s'est fait insulter par Arthur. D'accord ? Arthur vient et traite Moshe de tous les... comment s'appelle lui ? Yaakov. Traite Yaakov de tous les noms. Yaakov va réagir. Moshe dit, je t'en supplie, ne réagis pas. Mais quoi réagis pas ? Et t'as vu comme il... Non, tiens-toi, ne lui dis rien. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Bon. Et Arthur revient, espèce de ta-ta-ta-ta. Mais je vais lui le défoncer. Tais-toi, ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Il ne le connaît même pas, d'accord ? Et comme ça pendant 10 minutes. Et Moshe se retient sans cesse. Chaque fois, il est prêt à éclater, il se retient. Enfin, Arthur part. Mais dis-moi, d'où tu viens, toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et que je viens de sortir chez Rabbi Chaim. Mets ta main sur la tête, bénis-moi. Ça fait 20 ans que je n'ai pas d'enfant, il fallait que je trouve quelqu'un qui retient sa bouche lorsqu'il y a une bagarre. C'est arrivé maintenant du ciel, bénis-moi. Il a béni, la même année, il a eu un enfant. Le roi David est devenu la quatrième roue du chariot divin. Ça veut dire, je dois comprendre que tout ce qui m'arrive, ce sont des envoyés de Dieu. Et le plus grand cadeau, comme j'ai dit, que Dieu peut me faire, c'est une chose pareille, parce que ça m'enlève tous les péchés. Dieu peut m'enlever les péchés, comment ? Maladie, chassé shalom. Contrôle fiscal, avec redressement de quelques centaines de milliers. Alors là, t'es touché, dans ton corps, touché, dans ta fortune, t'es touché dans quoi ? Dans ton honneur. Ça va, baisse un peu ton honneur. L'honneur, c'est rien, c'est de l'imagination. Ça fait mal, mais c'est de l'imagination. Quand Dieu aime quelqu'un, il envoie ça. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Racontez l'histoire de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, son fils raconte. Il était déjà très vieux. Son fils rentre dans le bureau de son père, Chafetz Chaim, il le voit rayonnant de bonheur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa ? Il dit, mon fils, tu sais, ça fait déjà quelques jours que dans ma vie, tout va très bien. Je m'inquiétais peut-être que Dieu, Chafetz Chaim, me paye dans ce monde mes mitzvot. Baruch Hashem, ce matin, j'étais à la synagogue. Après la synagogue, je suis monté, j'ai mon bureau au-dessus de la synagogue. Donc je monte dans l'escalier en colimaçon. Je suis arrivé en haut et j'ai dégringolé. Et voici que le Chafetz Chaim culbute tous les écoliers en colimaçon. Alors, le partage, plaf, devant tout le monde. Bon, alors, Chafetz Chaim ou pas, tu vois, c'est dur de ne pas s'ouvrir un peu. Chafetz Chaim, il voit en public comme ça, tout le monde qui le regarde sourit un peu, Kvod Arav, avec un grand sourire, Kvod Arav. J'ai eu très honte. J'ai vu Baruch Hashem Dieu même. Un homme qui comprend ça, il est heureux. Il rayonne de bonheur. Non, une semaine de déprime. Non ! De bonheur ! Donc tout ce qui nous arrive maintenant, ce sont des envoyés de Dieu. Donc je n'ai pas à le haïr. Même à la rigueur, je dois le remercier. À la rigueur. Lui est coupable par rapport à Dieu, mais ce n'est pas mon affaire. Lui, c'est un rachat, et il sera jugé par Dieu, mais ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est au niveau de l'estomac. Attends, au niveau de la raison, dans le cas de Hitler spécifiquement, c'est un ennemi d'Israël, donc un ennemi de Dieu. Il y a une mitzvah, c'est marqué dans la Tehillim, et masanecha esna. Il y a une mitzvah de haïr, les haïsseurs de Dieu. Mais pas parce que mon ventre lui en veut. L'estomac, l'animal, la réaction basique. Basique, c'est Dieu. Je retiens. Mais il y a une mitzvah. Mitzvah. D'être un militant du bien. Un militant du bien, il a la haine totale du mal. Or, Hitler étant un agent du mal, j'ai la haine totale. Mais c'est en tant que mitzvah, en tant que réaction animale. Comprends la nuance. Bon, ça, je pense que j'ai répondu. C'est bon ? Baruch Adonai, le monde va, mais...